comme moi, vous attendez ce moment toute la semaine. Si dès que l'heure fatidique approche, vous augmentez le son. Attachez vos ceintures, restez derrière vos postes de radio ou de vos smartphones, parce qu'il est prêt. Il replace sa cravate, vérifie ses boutons de manchette, un dernier regard dans le miroir, le voici. Chaque mercredi après-midi, pendant une heure, découverte musicale et culturelle avec Julien. 15h-16h, maintenant j'y vais sur Radio Plus.
Hello, salut, bonjour à toutes et bonjour à tous, bien à l'abri chez vous. C'est Julien, en direct de chez moi, pour vous accompagner cet après-midi dans Maintenant j'y vais, dans la bonne humeur, même si on va aborder un sujet très très sérieux aujourd'hui. L'avenir du milieu de la musique après la crise, car si nous nous sommes confinés depuis le 17 mars dernier et qu'on trouve déjà le temps long, les salles de spectacle, elles, ont cessé leurs activités progressivement depuis le 7 mars. À l'époque, seuls les rassemblements de plus de 5000 personnes en salle étaient interdits, ce qui pénalisait surtout les zéniths. Puis on est passé à l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes, ce qui compliquait fortement la donne pour de très nombreuses salles, jusqu'à la situation que vous connaissez tous et toutes aujourd'hui. Mais vous le savez, vous qui aimez la musique et qui aimez aussi en connaître les coulisses, un concert, ça n'est pas qu'une salle, un public, un chanteur et des musiciens, mais bien toute une chaîne de métiers qui concourent à la réussite du spectacle. Les programmateurs, les tourneurs, les managers, les producteurs, les artistes, bien sûr, chanteurs et musiciens, les techniciens sont les techniciens lumière, la plupart d'ailleurs tous intermittents du spectacle. Toute cette économie est donc très très fragile et nous nous sommes penchés sur la question et nous allons pouvoir vous éclairer, on l'espère en tout cas, sur la situation, sur les inquiétudes de la filière, savoir également si les festivals de l'été sont maintenus, si les opérations de type billets solidaires sont efficaces. C'est le programme de Maintenant j'y vais en ce mercredi 1er avril et c'est d'ailleurs le Zoom de Maintenant j'y vais pour être tout à fait précis.
Curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Vous avez quelques minutes ? Ça tombe bien. Julien aussi. Maintenant j'y vais, le Zoom.
Et pour ce faire et pour vous éclairer, j'ai interviewé Romain Héning, chargé de communication et de ressources numériques au sein du réseau Haute Fidélité, le pôle régional des musiques actuelles. Alors peut-être que j'en ai déjà perdu en route, peut-être que vous voulez en connaître un peu plus les détails sur les missions de Haute Fidélité. Eh bien ça tombe bien, Romain Héning vous présente les différentes missions du réseau.
Alors Haute Fidélité, c'est le pôle régional des musiques actuelles en région de France. Ça peut être vu, pour simplifier, comme une fédération d'acteurs, donc avec ses adhérents, de la filière musique actuelle, qui a donc souhaité se doter d'un pôle qui, en effet, intervient sur plusieurs missions. Alors la première, c'est de représenter ses adhérents, mais aussi la filière au-delà de ça, c'est-à-dire que nous, on travaille pour toute la filière musicale, pas que pour les gens qui sont, pas que pour les structures qui sont adhérentes à Haute Fidélité. Donc c'est une représentativité auprès des institutions, des financeurs publics, que ça soit en région comme au national. L'idée c'est d'avoir du poids tous ensemble, d'avoir un peu plus de poids et une voix collective et commune dans les décisions politiques notamment. Donc ça c'est un peu le point de départ de Haute Fidélité, mais on a d'autres missions qui sont par exemple, donc on m'occupe de la ressource, ça permet de fournir des outils, des informations aux acteurs des musiques actuelles. Alors quand je dis acteurs de musique actuelle, ça peut être des structures comme des personnes, je pense notamment aux artistes, aux techniciens, aux intermittents, et les structures ça peut être sur tous les domaines d'activité. Ça peut être dans le concert, la production de disques. On a des gens, des acteurs très variés. Ça peut être des salles de concert, des producteurs, des tourneurs donc qui vendent des concerts, etc. Mais ça peut être aussi des médias comme les radios. Hein. Ça peut être plein de choses. Donc tout ce qui va toucher à la filière musique actuelle. Et on peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'au disquaire, indépendant, etc., etc.
On va d'ailleurs préciser effectivement à nos auditeurs que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ça ne touche pas que les grosses structures type le Zénith ou pour les salles plus petites l'Aéronef, le Grand Mix, mais on va toucher vraiment toutes les salles et tous les acteurs des musiques actuelles.
Voilà, c'est ça. Alors à la base, on a quand même des adhérents qui viennent plutôt de la sphère subventionnée. Donc labellisé par l'État, la région, etc. Mais il y a aussi pas mal de structures privées, totalement privées dans notre fédération, dans notre pôle de musique actuelle. Mais on va de la petite association, limite avec que des bénévoles, qui va organiser des concerts dans les bars, jusqu'en effet en aéronef ou à gauche de la Lune, qui est un très gros producteur qui est implanté à Lille. Sur les différentes missions, globalement, j'ai parlé de la ressource, c'est-à-dire fournir des données, fournir des informations, des outils. Il y a aussi l'observation qui est plutôt aller là chercher les informations, c'est-à-dire que on va étudier, enquêter sur tel ou tel sujet ou sur toute la filière au niveau régional pour essayer d'avoir des chiffres, des données, savoir comment ça se passe, quels sont les acteurs justement, quelle est la variété et la diversité des acteurs dans la région et éventuellement repérer les problèmes, les problématiques en tout cas, là où il y a des manques, là où il y a des besoins. On essaye d'être sur toutes nos missions, de faire très attention à pas être... on travaille sur la région de France, c'est très grand, c'est un très grand territoire, c'est assez nouveau, puisque avant, les régions n'étaient pas... c'était pas les grandes régions. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur, de vraiment d'être éclectique et varié, d'être représentatif des problématiques de tous les territoires, quoi, et de tous les acteurs.
Maintenant, j'y vais avec Julien. Jusqu'à 16h.
Et vous êtes toujours dans Maintenant j'y vais, consacré aujourd'hui au réseau Haute Fidélité et à l'impact de la crise sanitaire dans le milieu des musiques actuelles. Alors quelques chiffres après la présentation du réseau. Ce sont des chiffres de 2017 issus d'un état des lieux territorial mené par Haute Fidélité. Les musiques actuelles en région Hauts-de-France, c'est 32 millions d'euros de recettes pour 30 millions de charges. 130 structures de toute taille, 2269 employés. La majorité en contrat d'intermittence. On recense en effet 1713 intermittents avec, vous le savez, un régime spécifique qui veut dans les grandes lignes que le technicien soit payé à l'heure de travail ou au cachet et atteindre un nombre d'heures spécifique, les fameuses 507 heures ou 43 cachets au cours des 319 derniers jours pour les artistes et au cours des 304 derniers jours pour les techniciens pour pouvoir bénéficier des indemnités de chômage versées par la CEDIC, la Caisse Interprofessionnelle de Solidarité. On vous laisse donc imaginer à quel point l'inquiétude est grande. J'ai tout de même demandé à Romain Héningue l'ambiance dans la filière des musiques actuelles.
On est dans l'attente de voir comment ça va se passer, mais clairement c'est un moment très grave et inédit qui se passe pour la filière, comme par exemple on pourrait voir pour le tourisme, j'imagine, comme pour toutes les industries, mais spécifiquement pour le spectacle vivant, c'est-à-dire tout ce qui est concert en termes de musique. Puisque évidemment, on l'a tous compris, il n'y a plus aucun concert du jour au lendemain, tout a été annulé, et ce qui est important de noter, c'est que la spécificité de la musique actuelle et du spectacle vivant, enfin de la musique live, c'est que c'est quand même une économie et un secteur où les structures sont très fragiles. Soit elles jouent beaucoup, elles vivent sur des subventions, soit elles vivent sur des recettes qui sont vraiment sur le fil du rasoir. C'est vraiment des économies qui sont sur le fil, ouais, tout le temps. Et à partir du moment où on arrive sur un raz-de-marée total et un arrêt des activités, il y a une grande crainte dans le secteur, bien sûr, parce que là, il n'y a plus ni de rentrée ni de sortie d'argent. Ça devient très compliqué, quoi. Alors après, il y a plein d'aides qui sont en train de se développer, le gouvernement de la région, différents fonds de solidarité. La question, c'est est-ce que ça va être suffisant pour passer le cap et pour tout le monde. Ça, à notre avis, pour l'instant, c'est encore compliqué. Le problème, c'est que aujourd'hui, c'est compliqué de se projeter. On est plutôt dans le faire et dans le présent pour essayer d'avancer au jour le jour, quoi.
Maintenant, j'y vais avec Julien.
Et dans quelques instants, la suite de notre interview avec Romain Héningue, chargé de communication et ressources numériques au sein du réseau Haute Fidélité. Mais pour se remettre de ces nouvelles pas très joyeuses, on va partir en musique avec celui que j'aurais dû recevoir en studio aujourd'hui pour parler de son EP Instinct, dont la sortie physique est reportée à la rentrée. Julien Bonnemain était déjà venu en studio nous présenter son premier album L'Arche. Il nous avait d'ailleurs proposé de bien jolies sessions acoustiques. Et justement, je vous en propose une cover qui va nous emmener au soleil sur l'île de la Réunion avec une reprise du groupe Oussa Noussava, un groupe fondé en 1984. La chanson s'appelle « N'a des millions d'années » et c'est interprété par Julien Bonnemain sur Radio Plus. Ladies and gentlemen,
Hey, hey, c'est à toi là. Maintenant, j'y vais.
Le live sur Radio Plus.
N'a des millions d'années que nous l'est là. Seulement comment nous l'arriver, ça ne connaît pas. Deux, trois, il dit microbes l'a transformé. N'a d'autres, il dit Adam et Ève envoyés par bon Dieu. Quand nous mort, où ça nous ça va. Comment nous l'arriver, ça ne connaît pas. Ça nous connaît pas. À cause l'île est noire, blanc, jaune, ou y aime pâli. Si l'île est misère, clochard, non, ou y aime pâli. Mais comme nous l'est là, que ne pas ça. On peut ou essaye à faire nous hommage. Quand nous mort, ça nous ça va. Ça nous connaît pas. Comment maman la met à moi là, il a pas dit à moi. Si t'es comme ça, si tout était comme ça. Mais comme beaucoup d'autres Esther, moi n'est plus d'accord. Comme un musicien, il voudrait changer d'accord. Quand nous mort, où ça nous ça va. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Quand nous mort, où ça nous ça va. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Quand nous mort, où ça nous ça va. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas. Quand nous mort, où ça nous ça va. Comment nous l'arriver, ça nous connaît pas.
Julien Bonnemain à l'instant sur Radio Plus avec N'a des millions d'années, une reprise du groupe Où ça nous ça va.
Julien prépare ses questions.
Tu veux apprendre des choses qu'on ne te dit pas sur Wikipédia ?
Maintenant j'y vais. L'interview.
Et on reprend le cours de notre interview avec Romain Hénin, le chargé de communication et de ressources numériques au sein du pôle Haute Fidélité, le pôle régional des musiques actuelles. La tendance est au report de vos concerts préférés. Vous vous demandez peut-être comment sont décidés justement les reports et les annulations de concerts. Eh bien, j'ai l'explication pour vous. La voici tout de suite.
Bah alors, le mécanisme du report, c'est la logistique. C'est-à-dire que c'est vraiment le producteur du concert, la salle, qui va travailler avec le tourneur, donc celui qui manage un peu le calendrier de l'artiste, pour recaler les dates. Le problème qui va se poser, c'est que reporter, par exemple, là, je discutais hier avec un producteur qui me disait que ils avaient une tournée pour tel artiste prévue là, en ce moment, qui donc s'annule, se reporte à l'automne. Sauf qu'à l'automne, il devait y avoir une deuxième tournée pour ce même artiste, une tournée plus grosse. En fait, il y avait une stratégie de marketing de faire une première tournée de test, qu'il fasse un peu le buzz et qu'à l'automne, fasse sa grosse tournée. Sauf que là, du coup, la première tournée est décalée à la place de la seconde et finalement, la seconde aura-t-elle lieu en 2021 ? On ne sait pas. La question, c'est que le report va engorger et complètement, on va avoir une offre délirante à la rentrée. Il y aura des concerts tous les deux jours et en fait, on va reporter des non-annulations, mais finalement, ce qui aurait dû avoir à l'automne n'aura pas lieu. Donc, il va quand même avoir un trou de trésorerie à un moment qui va être très important parce que c'est impossible de dédoubler toutes les dates, de rajouter toutes les dates qui vont avoir lieu maintenant à l'automne en gardant ce qui aurait eu lieu à l'automne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, elle reporte, les dates sont beaucoup reportées dans la mesure du possible pour garder la trésorerie des billetteries qui ont été vendues. Le problème, de toute façon, c'est que les gens aujourd'hui, vous comme moi, les consommateurs de concerts, ne pensent pas déjà sortir, évidemment, mais même ne projettent pas d'acheter un billet, c'est-à-dire que je ne vais pas aller demain, enfin, on n'a pas la tête à ça, à regarder en septembre, octobre, quel concert on va pouvoir aller le faire. Et donc, on va pas acheter de billets. Donc ça pose un deuxième problème, c'est le problème du billetterie, c'est que les gens n'achètent pas à l'avance et les producteurs de concerts vont être déstabilisés et vont avoir des problèmes à se projeter parce qu'ils savent pas si les concerts vont fonctionner. Et ça peut aussi engendrer une série d'annulations, de nouvelles annulations à l'automne si les billetteries ne suivent pas, si les gens n'achètent pas pour retourner au concert, quoi.
C'est maintenant j'y vais avec Julien jusqu'à 16h.
La semaine dernière, je vous parlais de l'opération Billets Solidaires et de tout ce qui était proposé pour soutenir vos artistes, l'achat de merchandising, le téléchargement légal sur Bandcamp, etc., etc. Alors, est-ce que le billet solidaire est une opération fiable? Eh bien, tout dépend du point de vue selon lequel on se place, figurez-vous. Voici l'éclairage de Romain Henning, à qui j'ai demandé son avis sur cette opération Billets Solidaires.
Ce qu'on pourrait nous relever et dire, c'est de réfléchir à la manière dont on va agir quand on parle notamment de financiers. Et par exemple, je pense au billet solidaire. L'initiative, elle est super. Elle vient du public. Elle est relayée pas mal par les salles. Et après, chacun y trouve son compte, c'est très bien. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans l'économie du live, c'est que si on suit un petit peu l'idée qu'a impulsé le gouvernement, notamment, et c'est pas bête, c'est de dire, et ça vaut pour toute l'économie, c'est de dire payez vos salariés, continuez à payer vos fournisseurs, etc., etc., faites des reports. Aujourd'hui, les salles, on leur demande, en tout cas si elles le peuvent, parce qu'évidemment c'est très compliqué, de maintenir peut-être les payes aux artistes, mais en tout cas de les intermittents, en tout cas de maintenir les salaires aux intermittents, dont la prestation a été annulée, dont le concert a été annulé. Les salles, elles seraient compensées justement par des fonds d'aide, de secours, etc., etc. En fait, ce qui est très compliqué, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que au final, quand on annule une date, si on remonte toute la chaîne, il y a beaucoup de gens qui vont être compensés par des fonds d'aide, etc., des solutions, ou qui n'auront pas de charges, parce que finalement, ils auront l'artiste pas payé intermittent, parce que finalement la date est annulée. Et qu'est-ce qui va en pâtir en bout de chaîne? Il y a un maillon très très sensible, c'est l'intermittent, donc c'est l'artiste ou le technicien, qui en fait ont plus de travail. C'est-à-dire que demain, un programmateur de salle ou un tourneur qui vend peut se mettre au chômage partiel et être indemnisé, etc. Alors ça va être compliqué, hein. Je dis pas que c'est pas un problème, mais un artiste peut pas se mettre au chômage partiel et il y a des solutions qui sont en train d'être trouvées pour les intermittents, c'est encore très flou. Mais le problème, c'est qu'en fait, autant beaucoup de gens vont garder leur salaire et leur poste et sauvegarder ça, autant les artistes, leur travail disparaît, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que je peux toujours penser que quand on fait un billet solidaire, à qui on donne cet argent, puisque c'est un don finalement, est-ce que c'est vraiment aux artistes? Est-ce que c'est à la filière? Est-ce que c'est à la salle? Et du coup, si la salle, vous lui offrez son billet, parce que c'est la salle qui gère la billetterie, qui a organisé le concert, bah, c'est super, mais qu'est-ce qu'elle fait de cet argent? Est-ce qu'elle le fait ruisseler? Est-ce qu'elle le remonte? Est-ce qu'elle paye son artiste dont le concert a été annulé ou pas? Et c'est ça la vraie question, c'est quand vous faites le don de votre billet, assurez-vous, demandez à la salle si les artistes sont payés ou pas. Est-ce que c'est reporté? Comment ça se passe et comment ils gèrent leur contrat? C'est, vous avez tout à fait le droit de savoir comment se passe le report, l'annulation, et qui est payé derrière par rapport au concert pour lequel vous avez acheté un billet. Donc ça, c'est le premier truc, c'est de faire attention à ce que tout soit solidaire et qu'en fait, votre action solidaire, elle soit dans une chaîne où la salle est elle-même solidaire de son producteur, qui est elle-même solidaire de son art. Parce que si c'est pour être solidaire et que ça s'arrête, en fait, du coup, il y a un biais où on a l'impression de, d'aider la filière et l'artiste, et finalement, ça s'arrête. Donc ça, c'est un truc qui nous paraît important. C'est pas une, une diabolisation ou un jugement que je donne, c'est plus de dire aux gens, attention, quand vous parlez biais solidaire, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et qu'est-ce que vous, c'est de savoir ce qu'on fait, et plutôt que de dire je suis solidaire avec les artistes, parce que les gens, quand ils achètent un billet, ils achètent un billet pour un artiste, pour avoir un concert de gens où ils sont fans. Et en fait, ce qu'il faut qu'ils prennent conscience, c'est quand je donne mon billet, je le donne pas à l'artiste. Quand je, Bandcamp, par exemple, qui est une plateforme de téléchargement de musique, qui est très proche des artistes, a aussi fait une opération où pendant une journée, ils ne prenaient pas de commission du tout, et ils versaient tout aux artistes. Alors c'est ça la communication, et en effet quand on achète un CD, on a l'impression d'acheter l'artiste, sauf que le CD ou même le MP3, souvent il y a un producteur photographique au milieu. Donc c'est très bien parce que c'est aussi des maillons de la filière, les producteurs concerts, les salles et les producteurs phono, donc de disques. C'est très bien qu'eux, ils bénéficient de ces opérations-là, mais la question c'est est-ce que ça remonte jusqu'à l'artiste? Et évidemment oui, la plupart du temps, mais... faut éviter ce raccourci, le billet je l'offre à l'artiste, ou la commission je l'offre à l'artiste. Il y a plein de gens au milieu, et qu'est-ce que font ces gens au milieu? Est-ce qu'ils sont aussi solidaires que les spectateurs, que les fans? Et c'est ça, juste, il faut bien éduquer les gens et dire, et c'est là où si on révèle toute la filière, et c'est très intéressant, c'est que du fan à l'artiste, il y a tout un tas de métiers et d'intermédiaires.
Et ça devient du coup compliqué à gérer, hein, parce que il y a le site d'information économique Quartz qui nous informe que en Italie, une dizaine de jours après le confinement, le volume d'écoute sur Spotify a chuté de 23%. En France, ça chute aussi. On sait déjà que le streaming rémunère un peu moins, beaucoup moins même les artistes que la vente de CD, que la majorité des revenus des artistes et de tout leur entourage se fait aussi sur le live. Le billet solidaire, vous venez de nous expliquer, a tout de même ses limites. Comment on peut aider aujourd'hui la filière?
Le meilleur moyen pour un fan de musique d'aider la filière, c'est de peut-être justement de ne pas demander, alors quand on dit c'est plus du billet solidaire parce que c'est pas du don, mais de ne pas demander le remboursement s'il y a un report de concert et de se dire bah, j'irai au report de concert à l'automne, en tout cas c'est voir comment ça s'organise, si c'est possible pour qui que ce soit. C'est de commencer à regarder et pas hésiter. Évidemment, il y aura toujours une année, au moment où les concerts de l'automne vont commencer à se réenclencher, pas hésiter à reprendre son billet rapidement et puis faire de la pré-vente, donc prendre ses billets en avance. Il y a beaucoup de gens qui ont l'habitude aussi de prendre leur billet au dernier moment ou de venir sur place. C'est pour rassurer, ça permet aussi de réenclencher tout simplement ses achats de billetterie ou de disques, etc. etc. Maintenant, si on veut s'impliquer plus, il y a des pétitions pour les intermittents, il faut se renseigner sur les difficultés, etc. etc. Mais en tant que fan de musique, le meilleur moyen de s'impliquer dans l'économie de la filière, c'est justement d'y participer. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'elle est en stand-by. Et pour ça, nous, on s'appuie sur les décisions politiques également, la solidarité entre acteurs. Il y a beaucoup de salles qui, je le disais, payent des concerts qui sont annulés et qui n'auront peut-être jamais lieu. Donc, qui soutiennent aussi paroissialement ces intermittents qui n'ont plus de travail. Voilà, nous, on est beaucoup sur aussi des décisions qui sont en attente, qui sont floues pour l'instant. C'est pour ça qu'on ne peut pas trop se prononcer sur quelles sont les aides financières, quelles sont les conditions pour les intermittents. A priori, la période là de confinement où évidemment ils peuvent pas trop avoir de travail, elle sera gelée, c'est-à-dire qu'elle ne comptera pas et on va rajouter du temps derrière. Enfin, l'intermittent, c'est compliqué, je peux pas me lancer là-dedans maintenant. Mais il y a des choses qui sont mises en place, qui sont pas encore satisfaisantes et qui sont encore floues. Et nous, c'est plutôt là-dessus qu'on essaye déjà de donner les informations aux gens qui en ont besoin, aux intermittents, aux artistes, aux salles, et en même temps de demander des réponses satisfaisantes au niveau politique, quoi.
Et la suite de cette interview, c'est dans quelques instants après une nouvelle pause en musique.
Salut, c'est Manukin sur Radio Plus. Voici un extrait de mon dernier album, Modern Day Hero.
et il s'apprête à sortir un clip, apparaître ce week-end autour de cette chanson. Il fait partie des artistes à suivre en cette période de confinement parce qu'il vous propose pas mal de choses sur ses réseaux. Sa chanson extrait de l'album Modern Day Hero que vous pouvez toujours vous procurer s'appelle The Story Ends. Le clip arrive ce week-end et on vous fait découvrir la chanson dans vos oreilles sur Radio Plus. Dans Maintenant J'y vais, voici Manukin, The Story Ends.
Whatever happens, you keep going. Look at all your success, all the good things that make you jump. They make you jump. This is the moment where you go. You keep the memories and the story. Do you wanna take my hand and go to the place where the story ends? Do you wanna break? Sacrifice what you ought to live. You gotta be born tonight. They'll come for you now. They make you jump. They make you jump. If you pay to take the good, you do what you're afraid to do. Look out on your horizons when you're moving. That makes you jump. That makes you jump. This is the moment where you go.
Manukin avec The Story Ends sur Radio Plus. Le clip sort ce week-end et sort également dans 4 jours le nouveau clip et le nouveau single du groupe FX qui s'appelle Lost My Way. Soyez curieux, allez suivre tous ces artistes sur leurs réseaux sociaux.
C'est Maintenant J'y vais avec Julien jusqu'à 16h.
Et on poursuit notre interview autour de la crise sanitaire dans le milieu des musiques actuelles. Alors actuellement, les salles de concert sont fermées, les opérations de soutien, vous l'avez entendu dans la précédente partie d'interview, ne fonctionneraient que partiellement. Il y a de gros besoins de trésorerie partout, et les aides du gouvernement ne suffiraient probablement pas. Alors vos salles préférées risquent-elles de fermer? Les artistes vont-ils devoir renoncer à leurs rêves pour pouvoir vivre? On ne le souhaite pas évidemment, mais voici tout de même l'éclairage de Romain Henning. Le réseau Haute Fidélité a co-signé un communiqué de presse relayé par le SMA, le syndicat des musiques actuelles, pardon, qui explique que suite aux différentes mesures qui mettent donc à l'arrêt le milieu des musiques actuelles, ça représente une annulation de plus de 20 000 représentations, l'arrêt de toutes les activités d'éducation artistique ou de formation en présentiel, la fermeture des studios de répétition qui permettent notamment l'accompagnement à les résidences d'artistes, la mise à l'arrêt des pratiques musicales en amateur, la fermeture des magasins de disques, etc., etc. La liste est évidemment longue, ce qui représente eh bien un déficit de recettes propres pour ces structures de l'ordre de 300 millions d'euros sur la période du 15 mars au 31 mai. Quand on entend que les premières mesures du gouvernement sont une aide d'urgence de 22 millions d'euros, et par rapport à tout ce qui a déjà été annoncé, notamment pour les entreprises des secteurs plus classiques, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la culture est le parent pauvre, justement, de ces aides gouvernementales ?
Clairement, ce communiqué, on le sort comme un point d'alerte, justement, pour essayer de mettre en exergue ces chiffres et ces problématiques-là qui sont, encore une fois, qui sont nouvelles, qui viennent de remonter. Et du coup, c'est ça, c'est notre boulot, c'est dire attention, en fait, nous, on est là, il faut des solutions qui soient adaptées. Donc c'est déjà le premier point, c'est déjà de mettre ça sur la table. Parce qu'en effet, aujourd'hui, c'est compliqué. Le fonds du CNM, donc du Centre National de la Musique, je crois qu'il peut indemniser une structure de 8000 euros, maximum, ça peut être beaucoup moins. Et je parlais avec un gros tourneur qui a perdu 800 000 euros en annulation. Donc si il a peut-être pas envie de faire un dossier en expliquant le pourquoi du comment et de perdre des heures de travail pour gagner 8 000 euros sur 800 000. Il y a un petit problème de réalité par rapport à la dimension des chiffres et des besoins. Donc en effet, ce fonds il est insuffisant. Maintenant, il y a d'autres aides, hein, évidemment. Il n'y a pas que le CNM et l'État. Il y a la région qui met aussi sur la table pour tout le monde. Il y a Audience et Pôle Emploi qui font des efforts, etc. Il y a beaucoup d'organismes qui ont contribué au fonds de solidarité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il semble qu'on soit loin du compte. Mais encore, du coup, c'est des points d'alerte. Tout ça, c'est en construction au jour le jour. Donc, pour l'instant, le problème, c'est qu'il faut de la patience, mais en même temps, il y a une urgence. Donc, c'est cette ambivalence-là qu'on essaie de gérer au quotidien. C'est que, il y a une urgence d'avoir une réponse et d'avoir des solutions, mais en même temps, ces solutions, elles se construisent en apprenant et en découvrant l'ampleur des dégâts, si je puis dire. Et ça, on le découvre et on le mesure tous les jours. C'est comme encore une fois, comme c'est inédit, on est obligé de construire avec les politiques publiques au fur et à mesure qu'on se rend compte de ces problèmes économiques.
Est-ce que les structures, justement, aujourd'hui, vous appellent à l'aide en disant financièrement, on est très juste malgré les aides d'urgence? Est-ce qu'il y a des structures qui sont directement menacées aujourd'hui de disparition dans les semaines et les mois qui viennent?
C'est compliqué parce que c'est des choses qui sont encore une fois en train de s'écrire. On n'en est pas là, mais évidemment, le risque est très, très palpable. Là, aujourd'hui, les structures font le point sur les aides en trésorerie, etc., qui sont disponibles, et voir ce qui est possible, comment ça va les impacter, et essayer de contrebalancer les problématiques qu'ils ont. Donc, on le saura, ça, dans quelques jours ou dans quelques semaines, au moment aussi où les aides seront certaines aides seront plus claires, ou seront mises en place ou non, les fonds de trésorerie tomberont ou non, etc., assez rapidement. Il y a quand même pas mal de solutions pour la trésorerie, etc., qui peuvent être mises en place. Et donc aujourd'hui, le vrai coup de main que nous on donne, c'est aiguiller les gens, et notamment les petites structures qui n'ont pas forcément un administrateur qualifié, pour répondre à des dossiers très institutionnels, pour connaître telle ou telle aide ou fonds de prêt de trésorerie ou garantie bancaire, et voilà, s'orienter un peu dans tout ce méandre administratif. Mmh. Qui est pas toujours facile quand on est une association avec un salarié qui fait tout, par exemple. Donc là où les grosses structures sont en train de, entre guillemets, s'autogérer et essayer de se situer, de faire ses demandes d'aide et de voir comment ça ils vont être impactés, les petites structures ont plus un besoin, avant de savoir si elles vont mettre la clé sous la porte, de voir ce qui est possible, justement en termes administratifs, quoi.
Dans un instant, on attaque un très gros morceau, l'après-confinement. Comment est-il perçu par la filière? Mais avant de retrouver la suite de cette interview, eh bien, on va faire une petite pause musicale, un court extrait d'un titre et d'un EP que je voulais vous faire découvrir. La chanteuse qui l'interprète est anglaise, elle sonne plutôt rock. Elle a sorti un EP à la fin du mois de février, un EP qui s'appelle Everybody Hears But No One Is Listening, que l'on pourrait traduire par tout le monde entend mais personne n'écoute. C'est un peu comme le confinement, si vous voulez, c'est-à-dire que tout le monde sait qu'il ne faut pas sortir, mais personne ne l'applique vraiment, parce qu'on croise encore beaucoup de gens dehors. Voici Nadia Sheikh sur Radio Plus avec un titre en acoustique qui s'appelle The Wire.
Pack my bags, wish me well. It's scary, yeah, I know it, but there's something in my heart that keeps me going, keeps me floating above the open sea. Hold my hand, guide me right. The road is long and winding, but I'm following the steps as they
dire en tout cas que les meilleures choses ont une fin et finissent trop tôt. Ben voilà, si on veut avoir le temps d'aller au bout de notre émission, il va falloir se contenter d'un petit extrait de Nadia Sheikh, mais je vous invite vraiment à aller découvrir son univers. Il est vraiment très très agréable à écouter, un peu comme ce titre qui s'appelait The Wire. Avant dernière partie de notre interview, et on aimerait vous dire que dans un monde idéal, le confinement se termine comme prévu le 15 avril, que dans la foulée tous les groupes se bousculent chaque soir au Stade de France pour que nous soyons 80 000 chaque fois à satisfaire nos soifs de concert, que toutes vos salles reprennent leur programmation comme si de rien n'était. Mais c'est compliqué, vous l'imaginez bien. À titre d'exemple, le Grand Mix a annoncé d'ores et déjà le report d'un concert prévu le 15 mai prochain, soit après la date officielle de fin de confinement. J'ai demandé à Romain Hening, chargé de communication et de ressources numériques au sein du réseau Haute Fidélité, son avis sur cette situation et sur l'après-confinement.
Alors ça peut être pour plein de raisons différentes, même sûrement des que je ne connais pas. Ce qu'il faut bien déjà lire, c'est que fin de confinement, qu'est-ce que ça voudra dire? Ça voudra dire on sera plus confiné chez nous, mais est-ce qu'on aura le droit de refaire des événements de 1000 personnes, de plus de 500 personnes, etc. On ne sait pas. Donc ça c'est aussi peut-être des principes de précaution, de se dire on va attendre juin pour pouvoir un peu être sûr qu'on aura le droit de refaire des concerts. Il y a aussi l'histoire de la tournée que j'avais évoquée en début d'émission, c'est-à-dire que si un artiste avait prévu une tournée qui était qui passait en avril, etc., qui se continue en mai, mais que les dates d'avril ont sauté, et ben en fait tout simplement la tournée entière va sauter, donc le concert qui devait être prévu en mai ben sautera également. Ça peut être ça également. Et enfin pour les événements un peu plus gros, ça peut être des questions de communication, c'est-à-dire qu'on n'a pas de prestataire, on n'a pas de relais, on n'a pas de presse qui va s'occuper de mettre en avant le concert, et de facto on n'aura pas de billetterie, c'est-à-dire qu'on n'a pas de vente. Est-ce que les gens aujourd'hui sont prêts, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, sont prêts, ou même ont la tête à aller acheter un billet en avance pour mi-mai, parce qu'ils ont envie de voir ce concert? Moi, à la place de quelqu'un qui est en train de concert mi-mai, j'attends l'annonce officielle du gouvernement, j'attends le dernier moment pour prendre mon billet, même si j'ai prévu et j'ai envie de retourner voir en concert. Et encore, c'est parce que je suis un grand fan, mais il y a peut-être aussi beaucoup de gens qui auront peut-être une frayeur à en revenir dans des milieux où il y a beaucoup de monde tout de suite, très vite. Donc il y aura aussi cette timidité qui est une timidité qui se traduit en peu de ventes, tout simplement. Et si le Grand Mix avait un concert mi-mai et que demain ils ont vendu zéro billet ou très peu de billets, et ils se disent peut-être économiquement c'est compliqué et que vaut mieux reporter le enfin, je sais pas si c'est le cas pour eux, mais en tout cas, ça peut être aussi des raisons qui font que c'est trop proche de fin de confinement pour s'assurer d'avoir un public. Vraiment, ou en tout cas.
Le futur proche, c'est aussi les festivals de l'été, chez nous, les Nuits Secrètes, le Main Square, notamment parmi les structures et les festivals reconnus à l'échelle nationale, voire même internationale. Des festivals qui, et je pense au Main Square qui est le plus proche dans le temps, puisqu'il est prévu du 3 au 5 juillet, qui prennent habituellement le temps au mois de mai, juin, de commencer à construire toute la structure pour accueillir le public, c'est-à-dire préparer le terrain, les scènes, etc. Est-ce que ces rendez-vous sont menacés à l'heure actuelle ?
Je ne prends aucune position, je n'ai aucune information sur les festivals de la région, je ne peux pas du tout dire ce qui va être de l'organisation et j'imagine qu'ils vont tout faire pour que ça se passe. Maintenant, d'un point de vue purement logistique, un festival même d'été en juin ou en juillet, il y a deux choses. La logistique, c'est les prestataires qui ont besoin d'avoir des validations de commandes, de scènes, de s'organiser longtemps à l'avance, etc. C'est quand même des grosses logistiques avec des infrastructures qui mettent plusieurs semaines à se préparer chez le prestataire, puis à se monter sur place, etc. Donc, dans cette période d'incertitude, on peut espérer que les deadlines soient encore corrects et que tout puisse se mettre en place, mais rien n'est sûr. Ça peut vraiment être compliqué, du coup, pour un festival d'organiser ça. Du point de vue des prestations techniques, mais d'accueil du public, mais aussi du point de vue des artistes, encore une fois. C'est un peu moins le cas en festival, mais les artistes ont quand même tendance à bouger de festival en festival au niveau international, surtout pour les gros artistes, et du coup, comment s'organise leur tournée, et est-ce qu'aujourd'hui, ils sont prêts à prendre ce type de pari, ne sachant pas de quoi demain sera fait. Il y a ça, il y a la fragilité économique des structures qui, des fois, ont aussi font des festivals, mais sont aussi des structures qui travaillent toute l'année à d'autres choses, des productions, des médiations, etc. Donc, ils sont peut-être fragilisés et qui vont annuler leur édition ou alors n'auront malheureusement plus les capacités de la mettre en place. Mmh. Et enfin, et on y revient toujours à ce fameux billet du fan ou de la personne qui veut venir en festival, c'est est-ce que les gens seront prêts à acheter le billet, à venir, mais surtout, il y a quand même un gros enjeu de remplissage, on appelle ça le remplissage, c'est-à-dire qu'il y a assez de billets vendus pour que économiquement le festival soit viable. On l'évoquait, le festival a besoin de communiquer bien à l'avance, longtemps à l'avance, sur les artistes qu'il va proposer. Il y a quand même besoin d'une longue période de communication, de marketing pour inciter à la vente et que tout le monde prenne son billet. Il y a des gens qui le prennent tout de suite, il y en a qui le prennent au fur et à mesure des annonces artistes, il y en a qui le prendront un peu plus tard après les examens, pendant les examens, au moment où le salaire tombe, quand les vacances commencent, etc. Et donc il y a tout un panel de gens qui ont des habitudes d'achat différentes de billets qui se déroulent pendant plusieurs mois afin de garantir un nombre de billets vendus suffisant au moment du festival. Et là, la question, c'est est-ce que cette période sera assez longue ? Est-ce que les gens vont commencer à acheter des billets ? Est-ce que même le festival aura l'occasion de communiquer et d'inciter à la vente assez à l'avance pour pouvoir se garantir des revenus suffisants pour organiser le festival ? Et là, c'est une grosse incertitude parce que je vois mal dans le contexte actuel un festival commencer à se mettre en avant et proposer des ventes de billets. Enfin, inciter les gens à venir faire la fête en juillet, là, les gens n'ont pas trop la tête à ça. C'est un peu compliqué en termes même de communication et de marketing. Donc, le truc du festival, contrairement à une salle de concert, ou même pour les gros concerts, ça joue comme ça aussi, c'est il faut quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois en amont pour garantir une bonne communication et des bonnes ventes pour pouvoir tenir l'organisation de l'événement. Et là, ça devient compliqué, étant donné que, encore une fois, les gens pensent à autre chose, même s'ils sont chez eux à rien faire, ils n'ont pas envie demain de s'acheter un billet. Et c'est plus naturel pour un festival en juillet, dont nous-mêmes on est en train de discuter, on ne sait pas trop comment ça se passera. Donc évidemment, les gens ne vont pas aller se précipiter sur les billetteries. Et ça, c'est un problème, c'est le premier problème peut-être pour les festivals qui auront lieu très tôt.
Et c'est vrai que justement, le communiqué que vous avez co-signé, relayé sur le site du SMA dont je parlais précédemment dans l'interview, rappelle aussi que cette période blanche va inclure, va induire un embouteillage à la reprise, qu'il va donc y avoir des annulations, on en parlait, hein, qui risquent aussi de se succéder bien au-delà de la crise sanitaire que l'on connaît en ce moment. Comment faire revenir les gens dans les salles de spectacle? Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre pour permettre la visibilité des artistes à votre niveau en tant que réseau régional? Et est-ce que vous ne craignez pas que à la reprise des concerts, les artistes en développement, plus petits, moins accompagnés, soient invisibilisés?
Mais je pense pas qu'ils soient plus invisibilisés que d'habitude. Les artistes en développement, et en, les émergents, les indépendants, ont toujours su trouver leur place. Et je pense qu'il y a vraiment toute un panel de niveaux de développement d'artistes et même de scènes différentes, c'est-à-dire les très gros événements spectacles que souvent peuvent être les zéniths, les scènes un peu plus avec une programmation artistique plus pointue que sont les SMAC, donc les scènes de mystique, qui sont un peu plus regardantes sur ce qu'elles vont proposer en termes de découverte justement, et la scène totalement indépendante qui peut jouer dans des cafés-concerts ou des salles indépendantes plus petites. Tout ça, c'est complémentaire en fait, et ça restera dans l'embouteillage. Malheureusement, je pense que c'est plutôt chaque scène et chaque niveau de cette complémentarité qui va s'auto-parasiter, c'est-à-dire que déjà, historiquement, le mois de fin septembre, mi-septembre et jusque novembre, c'est très 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 chargé, et tant mieux, il y a beaucoup beaucoup de propositions en termes culturels et notamment musique. Les rentrées sont toujours très très foisonnantes. Là, en effet, on va avoir un problématique. En fait, je pense qu'on va découvrir qu'il y a, de toute façon, il y a un seuil, un moment où on peut pas en mettre plus, quoi. Et c'est ça le problème des annulations reports, c'est qu'à un moment, les reports, ils vont prendre la place d'événements qui n'auront donc pas lieu à la rentrée. On peut pas tout doubler, et on peut pas reporter deux mois d'annulation sur deux mois de la rentrée, quoi. J'ai entendu pas mal de programmateurs, notamment parisiens, donc ça me concerne peut-être moins, qui commençaient à évoquer l'idée de réouvrir les salles en juillet-août, par exemple. Là où c'est vrai que souvent, juillet-août, c'est une période assez off, où il n'y a pas trop de concerts, on est plutôt sur le pendant festival. C'est très bien comme ça, mais où les salles commençaient déjà à grignoter ces dernières années des dates, à poser des concerts, des propositions de concerts jusqu'au mi-juillet, commençaient un petit peu fin août, parce qu'elles se rendaient compte que justement il n'y avait pas beaucoup de propositions, tout le monde s'arrêtait, et donc c'était intéressant de proposer des concerts à ce moment-là. Je pense qu'on va avoir ces grignotages-là qui vont être exacerbés, peut-être que jusqu'au mi-juillet on aura des concerts proposés en salle, et que ça commencera à partir de mi-août. Mais c'est sûr qu'à un moment, le problème qui va se poser, c'est à quel point, si je prends la métropole lilloise où il y a beaucoup d'offres, à quel point si j'ai énormément de concerts plus que d'habitude, et donc un concert à l'Aéronef, un concert au Grand Mix, un concert à la Cabine Poète, un concert aux Maisons Folie, etc., et tous les jours, eh ben les publics forcément automatiquement vont se diluer, se séparer, et donc la fréquentation de chaque salle va baisser. Et là, c'est là qu'il y a un risque aussi, en plus du fait qu'on ne pourra pas doubler et reporter toutes les dates à la rentrée. Donc c'est juste mathématiquement compliqué.
Maintenant j'y vais avec Julien, jusqu'à 16h.
On va essayer quand même de terminer cet entretien sur une note, alors je vais pas dire d'espoir, mais en tout cas, quel message vous souhaitez adresser à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient artistes, acteurs globalement du réseau des musiques actuelles, ou tout simplement public fan de musique?
Alors déjà, pour tous les acteurs et les artistes, les techniciens, les intermittents, ils ont des questions, des problématiques, on est là pour ça. Alors je sais qu'on est évidemment pas encore connu de tous, mais ce qu'on peut déjà noter, c'est que nous on a sorti un peu un site internet de ressources, donc d'informations, mais qui là du coup se décline avec une page dédiée aux informations, mais aussi aux aides, surtout concrètes. Nous ce qu'on a voulu, c'est qu'on ait vraiment des informations qui qui débouche sur quelque chose de très concret dans l'aide aux structures et aux intermittents. Alors, le site s'appelle Music, à l'anglaise, donc M-U-S-I-C-HDF, MusicHDF, pour Hauts-de-France.org, music-hdf.org. Et donc, sur ce site, il y a une page dédiée à la crise sanitaire qui pourra non seulement aiguiller, j'espère, la plupart des gens, enfin des structures et des acteurs de musique, mais en allant plus loin, pour pas qu'ils hésitent à nous contacter si vous avez des questions, des problématiques. Nous, on a un rôle d'orientation et d'accompagnement. On pourra pas faire toutes les choses à votre place, mais en tout cas, on pourra pointer du doigt des solutions qui, on l'espère, pourront débloquer les choses. Et puis pour le public et les fans de musique, ben, on l'a déjà évoqué, hein. Je pense que le premier soutien, c'est évidemment de commencer à se réimaginer en salle de concert dès que ça sera possible. Pas hésiter à apprendre ses billets en avance, à partir du moment où on sera rassuré sur la tenue du concert qui nous intéresse, ou du festival. Et c'est comme ça que ce sera le meilleur moyen de rassurer économiquement les structures qui vous proposent des concerts. Et puis ça va aussi pour le disque. Essayer de privilégier toujours un rapport le plus direct possible avec les artistes, ou en tout cas de comprendre comment l'argent, l'investissement, le billet, le disque que vous allez acheter, notamment si c'est via une action solidaire, va être réparti sur tous les acteurs de la filière, c'est-à-dire que quand vous achetez un MP3 sur une plateforme de musique, peut-être qu'il vaut mieux l'acheter sur Bandcamp, en effet, qui va aller donner de l'argent plus directement plutôt que Amazon, où l'argent va aller dans les paradis fiscaux et dans la poche d'Amazon.
Eh bien, le message est passé et nous, ici, évidemment, à notre niveau, on continuera à relayer l'actualité des concerts parce que on vous guidera aussi, vous qui nous écoutez, pour vous accompagner, vous, les artistes qui avez besoin de promotion, et vous aussi, les fans de musique, pour aller voir les concerts. On vous proposera régulièrement, évidemment, notre sélection dès lors que l'on aura de nouveau le droit de sortir, s'aérer la tête et se faire du bien aux oreilles dans les salles de concert. Romain Hénin, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes en charge de la communication et des ressources numériques au sein du réseau Haute Fidélité, le pôle régional des musiques actuelles en région. Merci à vous.
Merci à vous.
Maintenant, j'y vais avec Julien.
Voilà, et une interview qui a donc été enregistrée vendredi dernier. Alors, pas beaucoup de nouvelles hein, concernant les mesures prises pour le secteur culturel. En ce qui concerne les festivals annulés, il y a un festival de musique métal qui s'appelle le Billion Rocks, prévu le 9 mai, qui a été annulé et non pas reporté. Et puis, en ce qui concerne le Main Square Festival, eh bien, on a tenté d'avoir des informations. D'autres médias également ont tenté de sonder Armel Campagna, le directeur du festival. Aucune décision n'est prise pour le moment. Affaire à suivre. Et c'est la fin de ce numéro de Maintenant J'y vais. Merci à vous de l'avoir suivi. On adresse en tout cas un grand message de soutien à tous les artistes, à tous les techniciens, à tous les intermittents du spectacle qui sont dans l'incertitude. On est avec vous et on ne manquera pas de vous relayer, comme je l'ai dit, dès qu'il y aura des concerts à reprendre. Et puis, bien sûr, on continue de vous diffuser régulièrement sur les radios et particulièrement sur les radios associatives. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même punition pour une nouvelle émission directe. D'ici là, portez-vous bien, restez heureux. Moi, je vous dis ciao, bye bye et surtout, restez chez vous.